podcasts d'AFDS.tv, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.tv, Alexandre Marlier.
Every night in my dreams, I see you.
Faites le taire.
D'accord.
Bon, My Heart Will Go On s'est poumonné Céline Dion en 1997 sur la proue du Titanic. Mais que s'est-il réellement passé avant ce naufrage? Je parle bien sûr du paquebot, pas de la musique, quoique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau dossier de Frontières des séries. Et plaisanterie à part, la tragédie industrielle du siècle dernier cache bien plus que la simple histoire d'un navire qui heurte un iceberg et entraîne la mort de milliers de personnes. Car ce bateau, il a bien fallu le construire en pleine période où les travailleurs ont commencé à se battre pour leurs droits. C'est précisément cet angle de l'histoire que Titanic de sang et d'acier nous propose de découvrir. Cette série de 12 épisodes réalisée par Kieran Donnelly a été diffusée pour la première fois sur Chérie 25 en 2012 à l'occasion du centenaire du naufrage. Financé par la France, le Canada, l'Italie et l'Irlande, cette grosse production internationale réunit au casting quelques têtes connues et moins connues. On retrouve ainsi dans le rôle principal Kevin Zegers. Ce beau Canadien avait déjà fait ses gammes sur le grand écran auprès de Felicity Huffman dans Transamerica. Il était également apparu dans quelques séries à succès comme Dr House, Smallville ou Gossip Girl. À ses côtés, on retrouve Liam Cunningham. L'acteur irlandais a connu une très belle carrière au cinéma, mais aujourd'hui c'est son rôle dans Game of Thrones qui constitue sa nouvelle carte de visite puisqu'il y joue le rôle de Davos Mervaux. Dans leur sillon, la série réunit également Neve Campbell, Scream et la vie à 5, et Chris Noth, que toutes les fashionistas connaissent mieux sous le nom de Mr. Big dans Sex and the City. Malgré son budget important et le regain d'intérêt pour le Titanic à l'occasion des festivités de son centenaire, la série ne rencontrera toutefois qu'un petit succès d'estime. Pourquoi la série n'a-t-elle pas tenu toutes ses promesses? Nathanaël Picasse a voulu replonger en eau trouble pour en savoir plus. Alors bonjour Nat.
Bonjour.
Avec nous aujourd'hui également Sarah Sepulcre, bonjour.
Bonjour.
Après le succès colossal du film de James Cameron, on aurait pu s'attendre à un meilleur retour du public, non?
Non. Non, clairement non.
Pourquoi James Cameron avait dit tout ce qu'il y avait à dire en fait? Ou Céline Dion avait chanté tout ce qu'il y avait à chanter?
Oui, mais je pense qu'il y avait, une sorte de trop-plein peut-être du Titanic. Pourtant, on est quand même 15 ans après la sortie du film, donc on aurait pu se dire pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'à la vision des 12 épisodes de la série, bon, les raisons du désamour du public sont relativement évidentes.
Bah, il n'y a pas Leonardo?
Il n'y a pas que ça, je vais dire, parce que c'est vraiment une fresque historique qui accumule des éléments et des partis pris qui sont propres à faire fuir le public d'aujourd'hui, en tout cas. Bon, on va commencer par le début, l'histoire, hein, puisque à l'instar du film de Cameron, la série se pique d'une reconstitution historique au plus proche de la réalité, et encore on verra tout à l'heure qu'il y a quelques inexactitudes historiques, mais elle y insère des personnages principaux fictifs. Ben exactement comme dans le cas de Titanic, les deux personnages principaux, donc qui étaient joués par DiCaprio et Kate Winslet, sont aussi totalement fictifs, mais tout le reste qui évolue sont des personnages historiques. Titanic de sang et d'acier met ainsi en scène Mark Muir. C'est un jeune ingénieur brillant, très très sûr de lui, un peu trop d'ailleurs. Déjà, on a envie de le baffer un peu, puisqu'il arrive en fait à convaincre le financier JP Morgan de l'embaucher. Et comment est-ce qu'il y arrive? En disant voilà, j'ai un super CV et vous devez m'engager parce que je suis le meilleur et sans moi vous n'arrivez pas à mettre votre bateau à flot. Comme ça, au moins, c'est clair. Le richissime banquier américain est en effet à la tête de la White Star, qui est une des principales compagnies maritimes britanniques, dont l'actualité brûlante n'est autre que la construction de paquebots gigantesques, l'Olympique et le Titanic. Alors, à son arrivée sur le chantier, le jeune premier découvre que ce chantier, justement, n'est autre que le théâtre de nombreux conflits. Il y a les affrontements entre catholiques et protestants. Et oui, on se retrouve en Irlande. Il y a les ouvriers contre le dirigeant, contre la classe dirigeante, les élites. On a des problèmes de sécurité qui sont soulevés sur la construction du bateau versus l'obligation de restriction des coûts, évidemment. On a les Irlandais contre les Britanniques parce qu'on est aussi en pleine revendication d'autonomie. Sans oublier aussi quelques velléités contestataires de femmes qui entendent obtenir le droit de vote et une certaine liberté sexuelle.
En fait, un contexte historique plutôt intéressant.
Ah oui, clairement. On est vraiment sur une cocotte minute qui est prête à exploser. Et donc, on se dit...
Ou à couler. Ah, pardon.
c'est fin, c'est délicat. Mais donc voilà, c'est vrai qu'on se dit, ah ben il y a du potentiel, il y a clairement quelque chose d'intéressant à dire là-dessus, parce que non seulement ça renvoie à des choses qui sont même d'actualité, mais en plus ça nous rappelle aussi d'où on vient, toute cette révolution industrielle et tout ce que ça a amené évidemment.
Alors, je sens arriver le mai.
Oui, voilà. Bon, mais on va continuer sur l'histoire et après on partira sur le mai. Sur place, notre Mark Muir se lie d'amitié et très vite, bien plus que ça, avec la copiste Sofia Silvestri. Alors, c'est une immigrée italienne qui est issue d'une famille pauvre qui se bat tant bien que mal pour faire valoir ses droits en tant qu'ouvrière et en tant que femme. Elle est entourée pour cela d'amis qui sont à la base d'un mouvement contestataire dont l'objectif est de créer un syndicat et ainsi faire valoir le droit des travailleurs sur le chantier. Parce qu'il faut pas oublier à l'époque que les ouvriers n'avaient pas beaucoup de droits, c'est-à-dire qu'ils étaient payés à la production, donc au nombre de rivets plantés, pas de jours de congés payés, pas d'assurance maladie, pas d'indemnité en cas d'accident de travail, aucune sécurité d'emploi, évidemment, puisque on arrivait le matin sur le chantier, on lui disait « toi, tu rentres, si ta gueule ne me revient pas, tu rentres pas, pour peu que tu regardes de travers le maître de chantier, ben tu peux aussi repartir tout aussi vite ». Créer un syndicat, à l'époque, ça n'avait rien d'une sinécure, car les tensions sont vives en Irlande, et plus particulièrement à Belfast, entre les catholiques et les protestants. Les deux communautés, même issues du monde ouvrier, et ayant les mêmes problèmes au quotidien, n'arrivent pas à s'entendre et à s'unir pour faire entendre leurs droits. Ces tensions et affrontements sont d'autant plus avivés que la direction ne cesse de souffler justement sur les braises à ce niveau-là, puisque cette direction, qui est majoritairement protestante, voit d'un très mauvais œil évidemment la création et d'un mouvement contestataire qui pourrait mettre en péril ses promesses de livraison du Titanic dans les temps. Ça s'appelle Harland et Wolff d'ailleurs, la maison qui construit le Titanic. Et donc ils espèrent bien que la mise à flot du paquebot sera le couronnement d'une prestigieuse réputation. Et puis bien sûr, il faut faire attention à la réduction des coûts, il faut... voilà. Tous des éléments qui peuvent évidemment faire écho à l'actualité. On est aussi dans la réduction des coûts un maximum et des fois au détriment de la sécurité.
Donc à nouveau, des éléments qui donnent envie peut-être de voir la série ou de s'accrocher.
Exactement, oui. On peut se dire on va avoir un traitement moderne de la série. Eh bien non, c'est tout là le problème. Mais bon, je continue encore parce que donc... On est sur donc la société Harland & Wolff, qui est dirigée de main de fer par un conseil qui, à de rares exceptions près, ne voit évidemment les ouvriers que comme de la chair à canon ou de la vermine qu'il faut écraser. L'entreprise n'entend certainement pas changer une formule qui gagne et qui leur a rapporté énormément d'argent. Mark Muir peut quand même compter sur la protection paternaliste de Lord Piri. C'est un directeur de chantier pragmatique et libéral qui tente bien que mal de répondre aux exigences des travailleurs qu'il juge légitimes, évidemment. Lui, il essaye de gérer ça et la pression des autres hommes d'affaires qui entendent limiter les coûts au maximum. C'est quelqu'un qui fait preuve d'une grande sagesse plutôt au niveau des relations humaines et il déplore les tensions entre catholiques et protestants qu'il ne comprend d'ailleurs pas beaucoup et il n'hésitera pas à sauvegarder le secret de Muir pour le protéger.
J'ai dessiné des projets de bossoirs de type quadrantal pour affaler 4 canaux à la fois.
Est-ce nécessaire ?
Eh bien, il y aurait une place pour chaque passager et une pour chaque membre d'équipage.
Ça fait beaucoup de bossoirs.
Les normes vont bientôt changer. Si nous le faisons, nous serons en avance sur notre temps. Les normes en vigueur à l'heure actuelle ont plus de 20 ans.
Elles nous ont bien servi.
Mais elles étaient faites pour des bateaux d'une taille différente de celle du Titanic. Je contacterai Wallin afin qu'il fabrique un prototype.
D'accord. Faisons-le. Ah, respectons-nous les délais et notre budget.
Plus ou moins, oui. Nous avons eu beaucoup à affronter ces derniers temps.
Je suis au courant, mais plus ou moins n'est pas une réponse à donner à M. Morgan. Je voudrais lui dire que nous sommes dans les
temps. Je doute que nous n'ayons pas fait preuve par le passé de ponctualité en termes de livraison ou de délai, n'est-ce pas,
Andrews? Non, mais le monde nous observe. Ce navire semble avoir une existence à lui tout seul.
Oui, en effet, on dirait qu'il est vivant.
Nous craignons que les tensions religieuses et syndicales n'affectent la date de livraison d'un des navires de la White Star.
Je vous assure que je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour empêcher les interruptions de travail sur le chantier.
Permettez-moi d'être direct, William. Carlton dit que vous privilégiez une approche plutôt libérale avec vos employés au lieu de faire preuve de fermeté.
Essayeriez-vous de me convaincre de tolérer l'usage des armes contre ma main-d'œuvre sur les chantiers ?
Il est vivant, c'est le Titanic, donc quoi ? L'histoire, c'est le Titanic ? Ou c'est tous ces ouvriers qui se battent pour plein de raisons dont tu parlais ?
Alors, c'est clairement la deuxième solution. Et moi, quand je me suis lancé dans la série, c'est vrai que je me disais... J'allais dire je suis fan du Titanic, peut-être pas, mais enfin je suis intéressé par cette histoire en tout cas. Donc je m'attendais à découvrir plein de choses sur le Titanic ou un éclairage nouveau. Et en fait finalement ce Titanic c'est pas un personnage dans l'histoire, c'est vraiment une toile de fond pour plutôt brosser le portrait de ce qui se passait à l'époque. Et même si la série essaie de s'en convaincre, le Titanic est vraiment, vraiment en arrière-plan, je trouve, en tout cas personnellement, puisqu'en fait, la série, par contre, part dans des éléments de drama et limite de soap-opéra dont on s'en serait vraiment bien passé. En veut pour preuve le fait que Muir, donc le personnage principal, on découvre assez vite qu'il n'est pas exactement la personne qu'il prétend être, parce qu'en fait Muir s'appelait Malone avant et qu'il venait d'un milieu ouvrier et qu'en fait il a été poussé par son père à suivre de grandes études, il a quitté Belfast pour ça, il a changé de nom, caché ses réelles convictions religieuses catholiques pour se faire accepter par l'élite irlandaise, majoritairement protestante en l'occurrence. Une bonne partie de la série va être la sauvegarde de ce secret et la découverte de ce secret, évidemment, et comment est-ce qu'on gère avec tout ça, enfin, voilà. Et ce qui est pour moi juste pas intéressant du tout, parce qu'il y avait déjà assez d'éléments comme ça à développer, cet élément-là de drame, de soap opéra était un petit peu inutile.
Et alors que c'est une partie totalement inventée.
C'est une partie totalement inventée, clairement.
C'est la recette de Mad Men. On prend un fond historique et on rajoute un personnage mystérieux.
Voilà.
Avec un passé, machin.
Et bon, bien sûr, je comprends en même temps ce twist scénaristique qui te permet d'avoir un personnage qui évolue dans les deux mondes, évidemment, puisque l'intérêt, c'est de voir les deux mondes, qui est tiraillé entre les deux mondes, évidemment, parce que c'est quelqu'un de très consciencieux, qui a envie de bien faire son travail, qui a envie que le Titanic arrive à flot, etc., et qui comprend de l'autre côté les revendications des ouvriers. Effectivement, on comprend qu'il fait la jointure, le lien entre les deux, mais c'est tellement amené à la truelle et on sent que c'est forcé, que ça devient franchement ridicule en fait. Surtout qu'en plus on lui colle des relations amoureuses.
J'allais te dire, et les filles là-dedans.
Voilà, et les filles là-dedans.
Oui, parce que Neve Campbell joue quand même dans cette série.
Alors Neve Campbell a vraiment...
C'est donc une fille, oui c'est vrai.
Elle a un rôle vraiment secondaire dans la série alors qu'elle est mise très très en avant dans le générique. Elle joue le rôle d'une journaliste qui apparaît de temps en temps dans quelques épisodes et qui pond quelques articles. C'est elle qui invente le fameux terme du bateau insubmersible qui en fait devient le slogan après du Titanic. Mais du reste, elle est vraiment très très secondaire par rapport à l'intrigue principale.
Donc c'est désormais officiel, Neve Campbell fait des ménages.
C'est ça. Exactement.
C'est le love interest.
Pas du tout.
Ah merde.
Pas du tout, c'est pas du tout un love interest de Mark Muir. Mark Muir, en fait, il tombe amoureux de cette autre ouvrière comme lui, en fait, quelque part. Mais il est aussi au centre des attentions d'une autre femme, qui est Kitty Carlton, qui est la richissime héritière d'un homme d'affaires, qui lui est bien décidé à donner sa fille en mariage à un bon parti. C'est, je crois, le seul personnage franchement intéressant et franchement moderne de la série, puisqu'elle a un regard plutôt cynique, désabusé, libéré et intelligent sur sa condition. Elle déteste le milieu dans lequel elle est, mais bon, elle se dit, ok, je sais que je suis un bon parti et je sais que je suis promise à telle personne, mais ça m'empêche pas de vouloir m'amuser à côté, et donc sexuellement elle est plutôt libérée, et à chaque fois qu'il y a des scènes avec elle, elle traverse tout ça avec une sorte de cynisme absolu et qui la rend franchement intéressante. C'est vraiment le seul personnage un peu moderne, un peu punchy de la série, parce que sinon qu'est-ce qu'on s'ennuie. À part ça, on a la toile de fond de cette saga, le Titanic qui prend forme petit à petit, donc on le voit se construire hein, au gré des drames et des rebondissements de la série, et il y a différents défis techniques qui font que ben, ça va créer d'autant plus de tensions avec l'arrivée notamment de l'Olympique qui a percuté un autre bateau, et donc il va falloir reconstruire une partie de la coque, et donc ça va mettre en péril les délais de production du Titanic, et puis on divise évidemment les ouvriers sur le chantier, et donc ça crée d'autant plus de tensions. Alors ils ont plus de travail, mais ils ont moins de salaire, et donc évidemment, voilà, ça crée la tension.
Ouh, ça a l'air pénible, hein, ton truc. Moi-même, je suis perdue, là. Je sais plus si c'est une série historique ou un soap opéra, avec Lois Lane au milieu.
Non, Lois Lane, non. Effectivement, on s'y perd un petit peu, et surtout que la série est très redondante dans les revendications des ouvriers qui n'arrêtent pas de dire, oui, c'est dégueulasse ce qui nous arrive, on va un petit peu manifester, la manifestation se passe pas très bien, et après, on se calme un petit peu, et on remet ça à l'épisode d'après. Donc voilà, c'est un petit peu lourd. Surtout que la série, qui se pique justement d'une reconstruction historique, accumule quelques inexactitudes, en l'occurrence. Je me suis un peu renseigné, c'est vrai qu'il y a eu des émeutes et des conflits qui ont éclaté chez Harland & Wolff, mais c'est pas tellement pour revendiquer plus de salaire ou pour défendre leur sécurité d'emploi, mais en fait c'était plutôt pour se révolter contre les pratiques à l'embauche, puisque la société était considérée à l'époque comme offrant des salaires décents, et il y avait même des indemnités qui étaient offertes. Par contre, elle pratiquait une forte discrimination selon qu'on en était protestant ou catholique.
Évidemment.
C'est soulevé quand même dans la série, mais c'est pas ça qui a l'air de motiver d'autant plus les ouvriers. C'est surtout soulevé en fait dans la première scène de l'épisode pilote, effectivement, où on voit qu'une personne est rejetée parce qu'elle est catholique et on va plutôt laisser rentrer un protestant. On insinue aussi dans la série que l'entreprise aurait privilégié un acier bon marché pour la construction du Titanic. Or, en fait, il semblerait plutôt qu'à l'époque, celui-ci était de bonne qualité, avec les standards de l'époque, évidemment. En témoigne en fait le fait que l'épave est encore en relativement bon état, même si elle est à 3000 mètres de profondeur, plus de 3000 mètres de profondeur, et qu'il y a plus de 100 ans qu'elle a coulé, elle est encore là. Donc, c'est là bien la preuve que l'acier a quand même tenu le choc, malgré tout. Et la série aussi donne beaucoup d'importance au personnage J.P. Morgan, alors que dans la réalité, il avait assez peu d'implication dans la construction des navires. En fait, c'était plutôt Bruce Ismay qui était impliqué dans les décisions stratégiques de la construction du Titanic, et moins J.P. Morgan qui était juste là pour allonger les sous. Mis à part ces inexactitudes historiques, on a quand même quelques intérêts dans la série, qui sont la description des tensions entre catholiques et protestants. Je pense que c'est vraiment le seul truc qui est vraiment bien développé dans la série. Bien sûr, maintenant, à notre époque de relatif apaisement entre catholiques et protestants, parfois ça peut sembler un petit peu gros de se dire que des personnes ne pouvaient pas se marier alors qu'elles étaient issues de communautés chrétiennes pourtant, que les hommes pouvaient même perdre leur emploi ou même ne pas avoir d'emploi à cause de leurs convictions religieuses. Alors maintenant, évidemment, on est plutôt sur l'islam versus nos racines judéo-chrétiennes, mais enfin, à l'époque, on était sur protestants contre catholiques. Et on se dit que les choses n'ont pas changé. Ça, on a juste déplacé un petit peu le curseur. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la montée en puissance de la revendication ouvrière, malgré tout, parce que se souvenir quand même de ces droits qui ont été chèrement acquis, aussi de quoi interpeller dans une époque où ces derniers sont quand même régulièrement reniés ou mis en question. Et puis les folies des grandeurs des élites aussi. On en veut toujours plus grand, toujours plus fort, toujours pour le prestige, au détriment de la sécurité, de la douleur des ouvriers, etc. Encore une fois, ça fait écho à notre société. Je pense notamment aux constructions des Émirats arabes gigantesques qui se fait au prix de la sueur et du sang de millions d'ouvriers qui viennent d'un peu partout dans le monde. Mais le gros problème de la série, c'est d'une part avoir développé ça et c'était très bien, mais après d'avoir mis en avant toutes ces intrigues de soap opéra dont on serait franchement passé et des scènes de drague entre cette amourette naissante entre Mark Muir et Sylvia qui est pénible à mourir.
Il y a quelque chose de solitaire chez vous. Vous me faites rire à longueur de temps, mais vous ne me voulez pas trop près de vous.
Je crois que vous faites erreur. J'adore vous sentir proche.
Et voilà, vous le faites à nouveau. Êtes-vous proche de votre mère? Ça explique pourquoi vous ne savez pas vous comporter avec une femme. N'ai-je pas raison?
Très impressionnant.
Merci beaucoup.
Où avez-vous appris tout cela?
Je suis une femme. On sait d'instinct ce genre de choses. Les hommes croient qu'ils contrôlent tout, mais c'est pas vrai. Ce sont les femmes. Nous vous faisons croire que vous contrôlez tout.
Et je n'ai jamais eu connaissance de ce détail de toute ma vie.
Mais vous savez, vous n'êtes pas le seul. Tous les hommes. Les hommes ne grandissent jamais. Ils restent de petits garçons. C'est pour ça que vous voulez me faire rire tout le temps.
C'est pas le cas des femmes, ça?
Non. Les filles mûrissent. On apprend à voir le monde tel qu'il est. On sait d'instinct ce qui est bien ou ce qui ne l'est pas. Ce qui est juste, ce qui est injuste.
Vous avez peut-être raison. Mais... vous ne savez pas marcher à reculons.
Oh... pardon?
Je parie que vous ne savez pas marcher à reculons.
Oh.
Approchez. Venez. Oh. Montrez-moi. Allez, dépêchons.
Vous voyez, j'y arrive. Ne grandissez jamais.
Comptez sur moi.
Oui.
C'est la version Dawson de la drague 1910.
Ah mais complètement, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, quoi. Parce qu'à la limite, si vous développez une histoire d'amour et que vous voulez peut-être mettez-y un petit peu de dimension actuelle, quoi. Quand bien même on essaie d'être dans la reconstruction historique, essayez de faire un truc un peu plus piquant malgré tout, quoi. Parce que là,
bah, c'est dangereux de marcher à reculons.
Oui, c'est dangereux de marcher à reculons. Oui.
Sur un chantier.
Là, en l'occurrence, ils sont pas sur le chantier quand il se passe ça, mais enfin. Cette histoire d'amour est vraiment tirée par les cheveux, est vraiment forcée à crever. On se demande d'ailleurs ce que les personnages principaux se trouvent l'un envers l'autre, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Alors ces roucoulades sont vraiment gerbatives. C'est vraiment tiré d'un livre de Barbara Cartland, surtout qu'après, comme elle va avoir la révélation du passé, entre guillemets, trouble du héros, ça va provoquer des petites tensions. Et puis après, elle va vouloir partir à Londres parce qu'elle veut reprendre des études. Et alors, ça va recréer des tensions. C'est lourd, c'est téléphoné et c'est vraiment pas utile, alors qu'il y avait vraiment d'autres éléments qui étaient bien assez intéressants comme ça.
Une question que je me posais par rapport à cette série, c'est quand on a vu le film, l'intérêt aussi du film, c'était la reconstitution du bateau tel qu'il était à l'époque. Bon, on a bien compris ici, le Titanic n'est qu'une toile de fond, mais est-ce que à certains moments, on se retrouve dans ce Titanic, on voit le Titanic,
On voit le Titanic parce qu'on le voit se construire, et donc on a pratiquement la pose de la première, j'allais dire de la première pierre, enfin de la première plaque en métal. Et puis de temps en temps, on a effectivement la grosse hélice qui est accrochée, et puis après on le voit prendre forme en toile de fond. On les voit discuter des plans de est-ce qu'on rajoute une deuxième coque pour qu'il soit plus solide, est-ce que voilà, il y a de la discussion par rapport à ça, mais on reste en dehors du Titanic parce que la série se termine au moment où le Titanic quitte le chantier.
On n'est jamais dedans, on ne voit pas les décors, on voit pas. Donc aussi à ce niveau-là, on peut se dire qu'il y a, ils ont pris cet angle-là pour avoir aussi une économie de budget aussi peut-être.
Mais non, pas tellement, parce que finalement dans la mise en scène, dans les décors, dans les costumes, on sent qu'on a mis quand même les moyens. Et effectivement, quand on voit le chantier du Titanic, on a une impression de grandeur, même si on sent les gros effets spéciaux derrière. Mais il n'empêche que c'était pas un problème de moyens. C'est juste qu'ils ont décidé de parler de ce chantier et finalement de représenter toutes ces tensions qui vont se cristalliser aussi dans le Titanic au moment où il va couler, puisqu'évidemment toute la classe ouvrière qui se trouvait dans les parties basses du bateau vont rester coincées et vont mourir comme ça, tandis que la classe dirigeante va s'en sortir les doigts dans le nez, entre guillemets. C'était intéressant, mais le problème c'est qu'en fait on n'a pas assez de Titanic finalement, et on est plutôt dans le soap opéra, et franchement dans les amourettes dont on se serait vraiment bien passé, je pense notamment à Sophia, qui avant de sortir avec Mark Muir, doit repousser les avances de l'homme qui travaille avec son père. Et là aussi, on est dans le super lourd, super pathos. Il lui fait sa déclaration en mariage, elle lui dit qu'elle n'est pas amoureuse de lui. Il lui dit, bon ben, je suis déçu, mais c'est pas grave, je vais te montrer que je suis un homme bon, je vais me battre pour toi et je serai patient. Même pas 10 minutes plus tard, il revient à la charge envers elle en disant, bon, tu as réfléchi à ma proposition, ça y est. Ben, elle lui dit, non, c'est toujours non, en fait, finalement. Et donc là, maintenant, il la violente un petit peu en disant, allez, tu seras ma femme. Et voilà, on alourdit le propos et ça n'a absolument aucun espèce d'intérêt parce que ça n'a pas beaucoup d'incidence sur l'histoire, si ce n'est qu'on va ressortir le personnage au moment où elle va sortir officiellement avec Mark Muir pour qu'il vienne remettre un petit peu de l'eau dans le gaz, évidemment. Ce genre de petites choses, on se serait bien passé. L'histoire est relativement dense, est assez intéressante quelque part, avec aussi des élections qui sont en train de se préparer dans toute cette histoire. Toute cette partie-là était vraiment pas nécessaire. Un des autres gros points noirs, c'est le manque de nuance totale des personnages. On a un héros principal qui est pas très séduisant avec les standards de l'époque. C'est-à-dire que on a quelques tentatives pour essayer de le rendre un petit peu moins lisse, mais c'est souvent assez vain. Il a toujours raison dans son travail, il est très consciencieux, il est plutôt doux et prévenant, il est intelligent, il est beau, il est gentil, voilà. Et il y a un moment, on a envie de lui foutre des claques en disant, bon, est-ce que t'as une petite part d'ombre malgré tout? Non, malheureusement, non. Et en plus, de l'autre côté, on noircit le trait à fond pour tout ce qui est des riches industriels, à l'exception de Lord Piri, qui est présenté dès le départ comme quelqu'un de plutôt bon et de plutôt dans la discussion avec ses ouvriers. Tous les autres, c'est vraiment des salopards qui n'ont qu'une conscience de la douleur des travailleurs, qui sont aveuglés par leur ambition et leur prestige, qui se gaussent même du malheur des autres. Alors là, ça, on est vraiment dans quelque chose de très pathos, puisque à chaque fois que les méchants font quelque chose de méchant, ils ont le petit sourire en coin, ils sont satisfaits d'avoir humilié le héros, ils sont satisfaits d'avoir été méchants. c'est vrai qu'on a un manque de nuance qui est très important, alors que je suis sûr que ça a été beaucoup plus complexe que ça. Et ils auraient mieux fait justement d'aller dans cette complexité-là. Ça aurait été nettement plus intéressant.
Bref, c'est un acte manqué.
C'est un gros acte manqué, une grosse déception pour moi, puisque je m'y suis plongé en me disant « chouette, quelque chose sur le Titanic ». Et comme j'ai dit en début de dossier, c'était un sujet qui m'intéressait. Mais le traitement est... comment dire ? Un naufrage.
Je pense qu'on peut terminer là-dessus. Juste pour te signaler, je crois que tu es au courant qu'il y a une deuxième mini-série qui est sortie à la même époque et qui s'appelait Titanic en 4 épisodes. Ce sera peut-être l'occasion d'un autre dossier d'ici 10 ans.
Bien essayé.
Ou d'un craignos peut-être.
Sinon, il y a Thierry Lafronde. Hein.
Si, oui, voilà. Grand merci à vous deux. C'est là-dessus qu'on va refermer ce dossier. Je ne sais pas si on vous aura donné envie de regarder Titanic de sang et d'acier, mais enfin... voilà, comme ça vous serez prévenus. À très bientôt pour un prochain dossier de Frontières des séries.
Retrouvez aux Frontières des séries sur le web www.afds.tv.